demanda-t-il. « Qui êtes-vous ? » « Les fils de la pauvre femme qui vit dans le désert. Ne craignez rien, vous êtes mes fils. Ceux qui ne me sont rien sont nourris à ma table. À plus forte raison, je m'occuperai de vous. » Et François ajouta, « Pas de danger que meurent de faim les fils et héritiers du roi éternel, car le roi de la parabole était le Christ qui pourvoirait à tout, et c'était lui, François, qui les avait engendrés. » Ce discours acheva de persuader le pape, mais non tout à fait autant qu'il eût fallu pour lui arracher une approbation formelle. Il fit à François des recommandations affectueuses et l'invita à revenir le voir quand le nombre de ses fidèles se serait multiplié. Alors, et alors seulement, il pourrait lui accorder davantage. Il lui permit cependant de prêcher. Ici, 47 ans plus tard, saint Bonaventure, à des fins d'hagiographie idéale, nous décrit la scène de façon un peu différente. Il nous montre le pape, émerveillé par le discours de François, acquiescé sans réserve. Non seulement il lui accorda tout ce qu'il demandait, mais il promit par la suite de lui donner encore plus. Il approuva sa règle, lui donna mission de prêcher, et fit faire de petites tonsures à tous les laïcs compagnons de François, pour leur permettre de prêcher la parole de Dieu sans être inquiétés. Détail qui n'est pas sans intérêt, la curie ajouta que les frères devaient élire un chef, et cela allait faire un ordre de plus dans l'Église, écartant ainsi le spectre d'une hérésie comme celle des bonhommes de Lyon. D'approbation écrite de la règle, point. Après une prosternation aux pieds du Seigneur Pape, François prit son congé et avec ses frères sortit aussitôt de la ville par la Via Salaria. Que pensait-il en quittant Rome? Avec toute son innocence retrouvée, il n'en restait pas moins italien, et sa finesse naturelle l'instruisait du prix des bonnes paroles. Mais comment discuter avec un personnage coiffé d'une tiare, lui qui n'était rien, lui qui ne savait rien? Quelle figure pouvait-il faire devant ces hommes pleins d'un savoir étourdissant? Le pape lui avait donné son assentiment verbal. La parole du pape lui suffisait. Cependant, s'ils disparaissaient l'un ou l'autre, verba volant. Quand le poverello entendit ses frères exulter et chanter victoire, ne dut-il pas secrètement souffrir? Il pressentit non pas l'échec, mais bien pis, la réussite illusoire. Les cardinaux avaient trop grogné. On ne voulait pas de sa règle toute simple, et lui, d'autre part, ne voulait pas fonder un ordre. C'est ici que les documents se taisent, crainte de ternir la belle image. François, à la cour de Rome, était comme un enfant, mais il avait une intelligence surnaturelle du sens caché des événements, et il dut flairer les hésitations dans ses compliments et ses bénédictions qui n'engageaient à rien de précis. L'approbation, remportée de haute lutte, n'était qu'une permission de principe. C'était à Jésus seul qu'il devait s'en remettre. Et le Christ lui rendit doucement la joie que le monde n'a jamais pu donner. Dans une vision nocturne, il retrouva tout son courage. Il vit un arbre gigantesque à la cime duquel il se trouva enlevé, et l'empoignant des deux mains, il réussit sans effort à la courber comme il voulait jusqu'au sol. Or, cet arbre était le pape. Le piège de la halte bienheureuse. Aller à pied jusqu'à Spolète en plein soleil était dur, et les frères harassés de fatigue et mourant de faim ne trouvaient de consolation qu'en s'entretenant de l'heureux succès de leur expédition romaine et de tous les espoirs qu'elle promettait. Mais comme n'en pouvant plus, ils s'arrêtaient devant une plaine désertique, un inconnu vint à eux et leur donna du pain. Quand ils voulurent le remercier, il avait disparu. Qui était-ce ? À quoi bon se le demander? Le miracle est l'ordinaire des premiers frères. Revigorés, ils continuèrent leur route et atteignirent près d'Orté un lieu si agréable qu'ils y demeurèrent 15 jours. À vrai dire, ils n'y voyaient passer personne, mais ils n'eussent pas été franciscains si la beauté du paysage n'eût pas agi sur eux. Ils allaient mendier leur nourriture à Orté ou sur la route de Narni et cachaient le surplus dans un vieux tombeau étrusque.